J'invite à reprendre place et vous savez qu'il y a une richesse inestimable que le Seigneur a mis entre nos mains. C'est sa parole, effectivement. Seigneur, encore ce matin, il va nous enseigner à travers notre frère, notre pasteur. Donc que nous ayons le cœur encore une fois grand ouvert, l'esprit grand ouvert. Et toujours dans cette même philosophie, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
Merci Jean, merci Chris pour les chants. Bonjour à tous, à ceux qui viennent pour la première fois, ou ceux qui viennent, viennent pas depuis longtemps, et puis bienvenue encore. Et comme vous savez, nous sommes en train de continuer un thème spécifique pendant tout ce temps-là, le thème du salut. Donc on va tout la panoplie des thèmes et des choses, des angles de vue qu'on peut voir. Et la semaine dernière, c'est un dernier, voilà. Oui, on a vu le péché. Et comment ce péché, et il était originé en Satan, dans le domaine angélical, et il a fait pécher l'homme pour lui piquer ce que Dieu lui avait donné, le royaume d'ici sur terre. Alors, bien que Dieu avait pourvu à cet homme, Adam et Ève, une couverture après qu'ils sont péchés, si on le regarde en Genèse chapitre 3, il a dû sacrifier un animal ou des animaux pour les couvrir leur honte. Alors, on va continuer dans le temps et on arrive au temps de Moïse. Au temps de Moïse, Dieu, il est fait sortir de l'Égypte. Donc on voit ça dans le livre d'Exode. Et pendant qu'il marche dans le désert, il y a quelque chose que Dieu va faire pour le peuple d'Israël. Il va dire, bien que vous avez vu tout mon pouvoir, toute ma puissance en Égypte, avec toutes ces 10 plaies que j'ai envoyées au Pharaon pour qu'il vous laisse libre, je veux être avec vous. Et ça, on le trouve dans Exode chapitre 25, si vous avez vos Bibles avec vous. Si tu peux mettre la deuxième photo, Chris. Merci. Exode chapitre 25, on va simplement lire un verset là-bas. C'est le début de toute l'explication que l'Éternel va donner à Moïse pour le tabernacle. Le tabernacle, voilà. Et Exode chapitre 25, verset 8, il dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et voilà que ça commence, comme je viens de dire, à toute l'explication de chaque partie de cette tabernacle que là vous l'avez en photo. Et même, et c'était tellement précis, on va le voir tout à l'heure, c'était tellement précis qu'il devait se mettre par tribu dans un coin spécifique de tabernacle. Le tabernacle, c'est ça, y compris tout ce côté-là, plus la tente. Là, ce que vous voyez en tant que feu, c'était la présence de Dieu montrée la nuit. Le matin, c'était une nuage qui couvrait cette enceinte, cette tabernacle. Et la Bible dit que quand l'Éternel bougeait, quand cette feu bougeait, il fallait que tout le peuple bouge. D'accord ? Donc c'était vraiment où, comme Dieu s'est manifesté dans le temps de Moïse, pour le peuple d'Israël, pendant les 40 ans qui sont voyager dans le désert. Alors, si nous devions lire tout ce qui concerne le tabernacle, il nous faut plus ou moins 24 chapitres. Et pas simplement dans l'Exode, dans le Lévitique et aussi dans Hébreux, pour comprendre ce qui se passe avec le Christ. C'est pourquoi j'ai mis de la petite feuille, que vous pouvez la télécharger aussi, pour les courageux qui veulent lire Exode 24 jusqu'à 40, Lévitique 1 et chapitre 1 à 7, chapitre 16 et 17, et après Hébreux 8 à 10, pour les courageux. Pour ceux qui ne peuvent pas lire tout, vous pouvez lire simplement Hébreux chapitre 8 à 10, les trois chapitres. Et mais là, je vous laisse à votre choix. Aujourd'hui, on ne va pas parler de toute la totalité du tabernacle. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, on n'a pas le temps. Si vous voulez, plus tard, on peut prendre le temps. Pas un dimanche, mais un samedi après-midi, quelque chose comme ça, pour aller petit à petit dans chaque élément du tabernacle. Simplement, donc, quelques illustrations pour vous dire qu'est-ce que c'est énorme. Et ça, c'est simplement pour vous dire, ces petits livres, je les trouvais dans la bibliothèque là-bas derrière. C'est très important ce que vous passez voir de temps en temps. Ils vous ont pointé un petit livre. C'est marqué « Le tabernacle et les services des Lévites ». C'est très bien expliqué, beaucoup de choses qui sont là pour qu'on comprenne mieux. Simple, la Bible nous marque que le tabernacle était fait de différents types de matériaux. D'accord? Par exemple, l'or et l'argent, l'argent, et il y avait différentes couleurs. Bleu, scarlate, pourpre et blanc. Dans tout ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'ils ont une signification? Oui. L'or, quoi? L'or, c'était le métal plus précieux mentionné de la Bible. Ça veut dire quoi? Ce qui est divin, la nature divine au pur de Dieu. L'argent, la rédemption. L'argent, la justice de Dieu. La couleur bleue, celui qui est descendu du ciel, de Christ, par le Christ. Escarlate, le sang de Christ. Pourpre, c'est le Fils de l'homme, au-delà de souffrance, il a sa royauté. Le blanc, on parle d'un homme parfait, sa pureté, sa sainteté. Et ça, c'est que quelque chose, petite chose de tout ça. Il y a une chose que ce n'est pas marqué ici, qui dit que le bois utilisé pour faire tous les poutres que vous voyez à côté et à l'intérieur, il était fait d'un bois qui s'appelle acacia. Et cette bois, c'est très rare dans le désert où c'était les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Donc ils le trouvaient. Et en plus, cette bois acacia, c'était une des rares bois que c'est impoutrecible. Et là, dans ça, des poutres à l'intérieur de lieu saint, on va le voir tout à l'heure, de lieu saint, et c'était enrobé d'or. On parle de quoi? De l'humanité de Christ, impoutrecible, si on peut dire ça. Et sa divinité en même temps. C'est quand Dieu était fait homme. Il était Dieu, mais en même temps était homme. Et ça, c'est le début de tout ça. Christ, si tu peux, s'il te plaît, changer d'image. Alors, pendant que Christ met sur photo, tournez la page avec moi en Lévitique chapitre 16. On va se limiter aujourd'hui à expliquer qu'est-ce que c'était le sacrifice de expiation et propitiation. Là, après, je peux vous fournir l'image si vous voulez. Je l'ai trouvé en ligne. C'est vraiment très bien expliqué. Et simplement, qu'est-ce que c'est les éléments du tabernacle. Voilà, il faut la différence entre la taille entre le terrain de football et le tabernacle. Voilà, le tabernacle faisait... Et 25 mètres de largeur pour 50 mètres de largeur. Voilà. Alors, le tabernacle avait trois parties. Le parvis, que c'est toute cette partie-là, le lieu saint et le lieu très saint. Et à l'intérieur de cette partie-là, le lieu très saint, dans le lieu saint, il y avait quatre choses. Il y avait la table des pains, le chandelier d'or. Je ne peux pas me tromper dans les mots en français. Voilà. Et, pardon, trois choses. Et l'autel d'or. Et dans le lieu très saint, de le côté après, le voile que vous voyez là, que vous voyez ici en rouge, ça c'est le voile pour diviser ces lieux, il y avait l'arche et le propitiatoire. L'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle, la couverture de l'arche. Et dans l'arche, on trouvait quoi? On trouvait le bâton de Moïse qui a revenu vert. Et on trouve aussi un peu de la manne, les dents. Et aussi les tables des 10 commandements. Alors évidemment, Dieu gardait tout cela bien parce que, imaginez-vous, des années à l'intérieur et la manne était encore bon. Donc Dieu gardait tout cela. Alors, on va, comme je dis tout à l'heure, on va se remettre simplement à comprendre, qu'est-ce que c'était cette sacrifice fait une fois par an. Et c'était très très important pour la vie d'un juif. Alors, pour que nous sachions en tant qu'explication primaire, cette expiation et propitiation, ils font partie du même sacrifice. Ce sont deux aspects du même sacrifice. Expiation, sacrifice qui annule la dette envers Dieu le Père. L'expiation. La propitiation, c'est l'offrande comme le moyen pour atteindre une relation parfaite avec Dieu. Je vais l'expliquer. Sur 1 Jean 2:2 dit ceci, il est lui-même la victime expiatoire. Donc c'est le moyen pour le sacrifice. C'est l'objet du sacrifice. D'accord? Donc je lis tout le passage. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc ce sacrifice, c'était un événement annuel où chaque Israélite devait s'humilier devant l'Éternel. Personne ne pouvait travailler ce jour-là. C'était interdit, même les étrangers. Nous allons suivre avec l'image sur l'écran comment s'est déroulé ce sacrifice. Donc, la seule personne qui pouvait faire ce sacrifice, c'était le souverain sacrificateur. C'est lui qui avait la charge venue de Dieu spécifiquement pour le faire. Il ne pouvait pas être un autre personne. Deuxième chose, il devait être lui tout seul. On va le lire plus tard. Il n'avait personne d'autre. Alors, pourquoi faire cet sacrifice d'expiation? Quand une personne, un Israélite péchait, commettait un péché, il devait amener un animal devant un des serviteurs de Lévite, et le Lévite le prenait, il faisait un sacrifice pour le péché de cette personne-là. D'accord? On ne parle pas des services d'expiation encore. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, le péché pour la personne, il était déjà mis dans cet animal. Donc, la personne était pardonnée. Alors, imaginez-vous, il y avait des millions de personnes, des millions d'Israélites, des millions de fois pendant toute une année. Donc, il y avait un moment dans l'année qu'il fallait que tous ces péchés qui s'étaient dans un sens et gardés à côté, qu'ils soient nettoyés. Et même que le sanctuaire soit sanctifié. Pourquoi? Parce que ce n'était pas saint, ce n'était pas glorieux. C'était une ombre, on va le voir plus tard, c'était une ombre, c'était un exemple de ce qui y allait venir. Donc, Lévitique chapitre 16, on va lire ensemble après, et du verset, j'ai mis où? Voilà. Chapitre 16, verset 5. On va simplement, il devait se changer de Aaron, le souverain sacrificateur, devait se changer de vêtements parce qu'il pouvait pas le faire avec son vêtement de service. Il fallait qu'il soit avec un lin blanc pour montrer sa pureté. Donc il fallait quoi? Qu'il se lave et après de se laver, se changer de vêtements et commencer cet sacrifice. Verset 5 de Lévitique 16. Il recevra de l'assemblée, oui, et debout et pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alors, et Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux bouts et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Dans l'entrée, c'est ici la tente d'assignation, c'est ça, c'est tout ça, d'accord? L'entrée est là. Aaron jetera le sort sur ses deux bouts, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bout sur lequel est tombé le sort pour Azazel et offrira un sacrifice d'expiation. Et le bout sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, qu'est-ce qui c'est Azazel? Cet Azazel, ce n'est pas une personne. Simplement, ça veut dire envoyer loin, renvoyer. Simplement ça. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas un nom spécifique. Il n'y a pas une personne à laquelle il était nommé. C'était simplement le fait de dire il est renvoyé à sa selle. Voilà, loin. Donc, Aaron, on n'a pas lu, mais Aaron aussi, il devait amener deux animaux. Pourquoi ? Pour ses propres péchés, de lui et sa famille. Donc, verset 11. Aaron offrira son taureau, c'est ce que lui avait amené, expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, il égorgera son taureau expiatoire. Donc, lui, il venait ici à l'autel et sacrifiait son taureau ici en premier. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faisait. Là, où il s'échangeait, il se lavait, il venait là. Et il gardait dans cet hôtel de sacrifice, il avait un endroit, quand lui, il tuait l'animal, il avait un endroit où il pouvait collecter le sang. Donc il avait une façon de pouvoir l'amener. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent et ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. De quoi on parle ? Là, ici, devant, le numéro 4, je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est de quoi ? C'était l'autel où ça représentait les prières des saints. Que Dieu était toujours devant, Jésus était toujours devant l'Éternel pour intercéder pour nous avec ses prières. Donc il dit quoi ? Prends des. Évidemment, il y avait du feu. Donc prends les braises de là. Et deux poignées, verset 12, et deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sous le feu devant l'Éternel, afin que la nuée de parfum couvre le propitiatoire, la couverture, qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Si bien, je fais une parenthèse, je continue à apprendre des choses à la parole de Dieu. Je pensais que le souverain sacrificateur entrait une seule fois au-delà du voile. Non, il entre trois fois. C'est un seul événement par an. Selon la Bible, il entre trois fois. Alors, la première fois qu'il entre, c'est quoi ? Il amène ses brassiers avec des charbons à vente et avec les deux mains remplies d'un poudre odoriférant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre devant la présence du Seigneur parce que, c'est comme on avait vu tout à l'heure, cette feu, ce n'était pas simplement par-dessus le tabernacle. Il est entré dans cette pièce-là, le lieu très saint. Donc il venait avec ses brassiers et il jetait cette poudre odoriférante sous le feu pour que ça fasse un odeur agréable. Quand on rentre à la présence du Seigneur, il faut que notre vie soit un odeur agréable pour pouvoir adorer correctement. Vous voyez comment c'est énorme, comment c'est extraordinaire. On continue. Comme ça, il ne mourra point. Verset 14. Il prendra du sang du taureau. Il fera, et là, c'est du sang du sacrifice d'Aaron pour sa famille. D'accord ? Verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc il sortait, il prenait une vase dont il y avait, j'imagine, parce qu'il ne s'est pas marqué, avec le sang, et il rentrait encore une fois à la présence du Seigneur pour asperger, voilà le mot, cette fois vers l'Orient, c'est pas marqué pourquoi l'Orient, mais bon, cette fois devant le Seigneur. Pour nous dire quoi ? Voilà, Seigneur, ma vie, voilà mes péchés. Seigneur, je rentre devant ta présence, lavé de mes péchés. On parle d'aujourd'hui. Mais il faut que je confesse mes péchés personnels devant toi. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour les peuples, les deux autres boucs qu'il y avait avant. Un d'entre eux était préparé pour cela. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il portera le sang au-delà du voile. Il fera avec le sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sous le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc là, c'est simplement pas ses péchés qu'il confesse devant Dieu. Là, il amène tous les péchés du peuple. Tous les péchés qui se sont collectés pendant toute une année. Il fait la même chose. Il asperge de cette sang devant le propitiatoire, dans le propitiatoire. Et cette propitiatoire, souvenez-vous, qui était fait complètement en bois et en or, pour que ce soit plus facile à porter, il avait l'image des deux chérubins qui couvraient leur visage et leurs pieds en tant qu'honneur et de respect à Dieu, à l'Éternel. Évidemment, les anges n'étaient pas là en vrai, ils étaient simplement en image. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants et de toutes les transgressions par lesquelles ils sont péchés. Il fera de même pour la tente d'assignation. Ça, tout le reste de la tente que vous voyez en violet. Oh. Il fera, et voilà, qui est avec eux et au milieu de leur impureté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après qu'il asperge le sang, le propitiatoire dans le lieu très saint? Il sort de cet endroit-là, il asperge avec ce sang-là tout le reste du tabernacle. Souvenez-vous que le tabernacle demeurait entre milieu de peuples impurs. Donc il fallait aussi purifier tout le tabernacle. Et c'est de la façon que l'Éternel avait décidé de le purifier. Alors, verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sort. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée. En sortant, il aura vers l'autel qui est devant l'Éternel. Ici, voilà. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il mettra sous les cornes de l'autel tout autour. Donc, il avait quatre cornes. C'est pas agrandi, mais il avait quatre cornes comme ça, ici, dans chaque coin. Il mettra du sang là pour le sanctifier. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc il avait fini, et pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Souvenez-vous, il avait deux animaux que le peuple avait amenés. Et devant l'Éternel, il avait été en sort, et l'Éternel décidait lequel restait vivant et l'autre était l'expiation. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec cet animal vivant? Aaron posera ses mains sous la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sous la tête du bouc, donc il priait dessus, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les dessert. Et là, c'est quand, après, Aaron rentre, il se lave, il s'échange, et c'est là quand tout le monde pourrait reprendre tous ces moments de service devant l'Éternel. La Mishnah, ça j'ai lu hier, c'était très intéressant. La Mishnah, c'est quoi la Mishnah pour le monde juif? C'est la tradition orale, d'accord, de juifs, la Mishnah. Alors la Mishnah, tiré d'un verset d'Isaïe, il dit quoi? Que dans ces moments d'expiation, à l'entrée, le souverain sacrificateur mettait un ruban rouge quand c'était le moment de l'expiation. Mais quand Dieu avait accepté le sacrifice, il le changeait en blanc. Et même il mettait sur le bout qui a été renvoyé au désert, il mettait un autre ruban rouge pour dire voilà toutes les fautes. Et là dans le désert, c'est pas que c'était vraiment quelque chose de loin. Personne pouvait y aller. Et même l'animal, il ne trouvait pas son point de retour. Si on fait la comparaison aujourd'hui, et on va arriver petit à petit. Et on va arriver plus tard comme Dieu a été notre souverain sacrificateur. Mais le fait de mettre toutes ces fautes sous cet animal pur, parce qu'il devait être pur pour être comme ça, il l'a envoyé loin. Ça veut dire quoi? Que Dieu oublie nos péchés. Personne ne peut le trouver. Ils sont assez loin, la Bible nous dit, qu'ils sont assez loin comme de l'ouest, de l'est. Là, il remettait tout cela sur l'animal vivant. Alors, il faut distinguer l'essence théologique de ce mot d'expiation, de son utilisation et de sa signification biblique. Pour la théologie, il s'agit de toute l'œuvre sacrificielle et rédemptrice de Christ. Par contre, dans l'Ancien Testament, ce mot garde son sens de couverture, de couvrir. Voilà pourquoi couvrir. Donc c'était le très saint était couvert. Voilà. En fait, les enfants de Lévitique couvraient les péchés d'Israël par anticipation et jusqu'au moment où le sacrifice de Christ serait consommé. Et c'était incapable d'ôter les péchés. On va ensemble maintenant au Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10. Là, on voit comment l'explication revient à travers Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, et on va rester dans le livre des Hébreux. Donc, souvenez-vous, le livre des Hébreux, c'était qui pour des chrétiens? D'accord? Pour et par les chrétiens. Hébreux 10, chapitre 10, versets 4 et 11, dit quoi? Versets 3 et 4, voilà. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 11. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Alors, est-ce que Dieu était un Dieu méchant? Non. Non. Dieu n'avait pas vu une solution au problème de péché de l'Ancien Testament. Mais pour nous, aujourd'hui, qui on a toute la révélation divine, on a Christ. Les péchés commis au temps de l'Ancien Testament, ils avaient été provisoirement couverts par le sacrifice lévitique. Mais les exigences de la justice divine n'ont été effectivement satisfaites qu'au jour de Christ est réellement devenu la victime propitiatoire. Hébreux chapitre 9, donc si vous voulez tourner la page, versets 11 à 16, il dit ceci, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. » Voilà le seul qui pouvait rentrer dans ce moment-là pour couvrir le péché. Souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'était pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'était pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, ici. D'accord? Souvenez-vous, dans les lieux très saints. Non avec sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Voilà la propitiation, l'objet du sacrifice. C'était Christ. Ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez au Dieu vivant? Encore, c'est l'auteur de ce livre dit, c'était bien le sacrifice, mais il y avait une limite, qui avec Jésus, il n'avait pas de limite. Lui, le souverain sacrificateur, si vous voulez lire plus tard, Hébreux chapitre 7, il dit qu'il vient de la descendance de Melchisedec. Je vous laisse, pour ceux qui veulent lire et s'élancer dessus, allez-y. Donc, il avait le droit. Ce n'était pas simplement qu'il était Jésus, il devait. Non, il avait le droit parce que il appartenait à cette famille de sacerdoce. Il était le seul sans péché, sans tâche. Il fallait quelqu'un, un animal sans tâche. Et la seule personne sans tâche sur cette terre, c'était qui? Jésus. Et plus, il n'avait pas de sacrifice. C'était lui-même offert comme sacrifice. Pour ma expiation. Pour apaiser la colère de Père. Pour ses péchés laissés impunis au temps de sa patience. Ce ne furent donc pas les enfants de Lévitique, mais la croix qui opéra une pleine et complète rédemption. Cependant, si Dieu avait pu laisser subsister devant lui un peuple coupable, c'était grâce à ses sacrifices préfigurant la croix. Il permettait aux pécheurs méritant la mort de confesser sa faute et d'exprimer sa foi. Et pour Dieu, il représentait une image. Chapitre 8 de Hébreux, verset 5, dit ceci. Il s'élève un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Chapitre 9, verset 7 et 8, dit ceci. Et dans la seconde, en parlant des souverains sacrificateurs, seul entre une fois par an, non sans ici y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin de lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc il fallait que cet tabernacle disparaisse pour que notre Dieu apparaisse. Et là, quand Christ meurt sur la croix, c'est marqué dans la Bible que le voile, cette voile qui divisait le lieu saint du lieu très saint, il est brisé en déchiré en deux. Et quelqu'un a dit, parce que c'était déchiré de haut en bas, quelqu'un a dit que c'était qui venait du ciel. C'était une interprétation. La Bible ne dit pas ça, mais a le sens. Il était déchiré. Le voile mesurait 10 cm. De largeur. Il était comme ça. Donc, il fallait beaucoup de force. C'était marqué dans la Bible, et c'est marqué en Lévitique, que même la force des cheveux ne pouvait pas le déchirer. Donc, le seul qui a pu déchirer cette voile et amène au Christ, c'est notre Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Alors, il y a quelque chose qui me surprend encore, c'est qu'à deux reprises, l'auteur d'Hébreux nous affirme que Christ est entré une seule fois. Mais pourquoi? Pourquoi il dit ça? Si on revient à ce qu'on vient d'expliquer, dans l'Ancien Testament, il rentrait combien de fois? Oui, mais chaque année, mais c'était chaque année. Chaque année, et les jours, c'était trois fois. Christ est entré une seule fois, pour toutes. Il n'y a pas entré trois fois le même jour. Une seule fois était suffisante. Pourquoi? Parce qu'il était le sacrifice parfait des parfaits. Christ, notre souverain sacrificateur parfait, se présente avec sa vie en propitiation pour nous. Il était l'objet du sacrifice. Il allait expier la totalité du péché de l'Ancien Testament, celle de nous aujourd'hui et celle de ceux qui viendront. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a pas un autre sacrifice que Jésus reviendra faire. On va lire ensemble Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. Et pardon, 9, 24 à 28, voilà. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, entré chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir une autre sang que le sien. Autrement, il aura fallu qu'il allait souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin du siècle, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il était réservé aux hommes de Moïse une seule fois, après le quoi il vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Une seule fois. Mes amis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il accomplit chaque chose qu'on voit dans le tabernacle. Il accomplit chaque chose qu'il avait dit à Moïse. Il était le sacrifice. Il était pur. Il était pur. Il est entré dans cet endroit. Il était la satisfaction à la colère du Père. Alors, après avoir vu comment l'image des choses de l'Ancien Testament s'est éclaircie avec la venue de Christ, nous avons quelque chose d'énorme à méditer et à prendre en compte pour notre vie aussi. Hébreux 10, et verset 19 à 25. Et avec ça, on va terminer. Hébreux 10, verset 19 à 25. Ici, l'auteur, après avoir dévoilé tout ce que Christ a fait, comment l'image de cet tabernacle est montrée sous Christ, il nous laisse un encouragement. Ainsi donc, de tout ce qu'on vient de dire, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire. C'est énorme. Souvenez-vous, avant, il fallait faire un sacrifice, se laver, et là, ce n'était pas nous. Il fallait qu'il soit quelqu'un d'autre qui était plus expérimenté, plus capable, compétent, pardon, que moi. Mais là, c'est nous tous, nous. On ne doit pas être compétent. La seule chose que Dieu demande, c'est qu'on croit son sacrifice. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on soit lavé de nos péchés à l'aide de son esprit. Et qu'on passe gratuitement à sa présence. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il est notre avocat, il intercède pour nous. Verset 22. Approchons-nous. Donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les cœurs lavés d'une eau pure. Voilà, ça reprend ce qui est passé dans le tabernacle. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce n'est pas simplement qu'il nous dit, venez à moi, venez à moi. Je vous tiens, je vais vous servir, je vais vous conduire dans la voie. Il est fidèle. Verset 24, encore un encouragement. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et là, parle, ok, tout ça c'était bien, mais qu'est-ce que nous faisons avec cela? Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour que Christ reviendra. Christ peut revenir dans 5 minutes, dans une année. Personne ne sait, seulement Dieu le sait. Mais parce qu'on ne sait pas, il faut être prêt. Il faut être prêt. Mes amis, tout cela, c'est extraordinaire. Vous pouvez penser, non, mais c'est un peu de connaissance. Oui, mais au savoir que Dieu même a effacé les péchés, pas simplement mes péchés, mais ces péchés de toutes les personnes de l'Ancien Testament, ça me rassure qu'il est un Dieu tout-puissant. Qu'il n'y a rien, il n'est pas compris dans le temps et l'espace comme nous sommes aujourd'hui. Allons-nous devant sa présence aujourd'hui, que nous avons le droit de faire. Déversons nos soucis, déversons nos fardons. Mais il nous faut quelque chose. Il faut venir avec un sacrifice. Romains 12, 1, je ne l'avais pas écrit, mais je pense que c'est pertinent. Romains 12, verset 1 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, de qui sera de votre part un culte raisonnable. Vivant, les sacrifices qui étaient là, ils étaient vivants. Ils étaient attachés par les quatre coins de l'autel, mais c'était vivant. Il n'était pas mort avant d'arriver. Mais Dieu nous dit, il faut que ce soit ma vie qui soit là dans cet hôtel. Dieu ne va pas me tuer. Ça, c'était pour ce moment-là. Il n'existe plus ça. Dieu veut que ma vie, je sois vivant pour lui. Si on a, pourquoi dit ça? Parce qu'on était mort à cause de quoi? De non? Péché. Mais on était rendu vivant à cause de l'Esprit. Donc on est vivant. Dieu veut des personnes vivantes. Et soit un sacrifice saint, agréable à Dieu. Comment on doit vivre? D'une façon sainte et agréable à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, en vue de tout ce que tu as montré à Moïse, Seigneur, et au peuple d'Israël, nous sommes émerveillés, Seigneur, de comment, Seigneur, tu as accompli chaque chose. Et comment, Seigneur, tu étais notre souverain sacrificateur. Tu es encore, Seigneur, notre souverain sacrificateur. Mais il n'y a plus de sacrifice. Pourquoi? Parce que tu as accompli, Seigneur. Seigneur, tu as annulé notre dette envers le Père. Seigneur, merci parce que c'était que toi qui pouvais le faire. Et sur ce matin, nous te demandons que tu nous cèdes à vivre conforme à ce que tu as fait. Seigneur, à venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, pas avec les mains vides, mais avec notre vie, Seigneur, vivante. Avec nos soucis, Seigneur, et le mettre devant toi pour être purifié avec ta parole. Et Seigneur, pour être devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère et la conscience pure. Seigneur, je ne connais pas les soucis de chacun, mais Seigneur, je te demande, Seigneur, par ta grâce et selon ta volonté, que tu nous aides à chacun de nous à vivre, Seigneur, conforme à ce que ta parole nous montre et à pouvoir être des exemples aux autres. Aide-nous à venir, Seigneur, de façon tranquille, Seigneur, au trône de ta grâce. En ton nom, Seigneur. Amen.